Il y a aussi le livre d'Hervé Kempf, l'avant-dernier livre d'Hervé Kempf, « Quand les riches détruisent la planète », dans lequel il montre vraiment très clairement que la consommation des catégories les plus riches, et notamment des hyper-riches, qui sont devenus de plus en plus nombreux avec le creusement des inégalités sociales qu'on a depuis une trentaine d'années. Ces hyper-riches ont des modes de consommation extrêmement prédateurs sur le plan environnemental. Et le problème, c'est que ça ne les concerne pas que eux, c'est qu'ensuite, ces modèles de consommation ont tendance à se diffuser dans la société, de manière bien sûr différente, entre une piscine d'un milieu petite classe moyenne et les grandes piscines californiennes aux États-Unis, il y a un monde, bien évidemment. Mais malgré tout, c'est des modèles de consommation, des modèles d'être au monde, des représentations du bonheur, des représentations de ce que pourrait être la bonne vie qui tendent à se diffuser et qui sont extrêmement prédatrices. Alors que, ça c'est bon, moi qui le rajoute par rapport à ce que dit Kempf, bien souvent au contraire, dans les milieux populaires, il y a, même s'il y a ces phénomènes d'imitation, ils y sont, c'est évident, on peut le voir chez des jeunes ou chez des moins jeunes, mais en même temps, il y avait une espèce de, je dis il y avait, il y a toujours, il y a une espèce de culture qui malgré tout a perduré, qu'on appelle souvent bon, la culture du suffisant. Dire, bon, mais moi ça me suffit ça quand même, j'ai pas besoin de tout ça. Ça existe, il y avait une tradition populaire qui a été très décriée parce que finalement, ça va à l'encontre de l'idée qu'on se fait du progrès, où il faut toujours plus, accumuler toujours plus de richesses, consommer toujours plus de richesses pour être heureux. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, en Amérique latine, aujourd'hui, il y a des peuples indigènes qui habitent la forêt, j'en reparlerai, qui viennent d'écrire un traité sur le bien-vivre. Ce qu'ils appellent le bien-vivre. Et c'est très très intéressant parce qu'ils mettent en évidence comment on pourrait, à la place de toujours rechercher toujours plus, etc., l'idée de prospérité au lieu de l'idée de croissance. Ils disent comment pourrait-on prospérer, comment les sociétés pourraient prospérer, comment les individus pourraient prospérer sans obligatoirement être dans ce système de croissance infinie et donc de pollution infinie. Que nous propose de déchets infinis, etc., etc., qu'on nous propose aujourd'hui. Donc voilà à peu près, je voulais dresser le cadre avant d'entrer plus précisément dans l'histoire des questions climatiques. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, peut-être devons-nous nous habituer à penser ainsi, c'est pour beaucoup, c'est une transformation importante, quand aujourd'hui on demande la réduction des inégalités. Quand on demande que véritablement les gouvernements, les organisations internationales, etc., prennent en charge véritablement la question de la pauvreté, on peut dire aujourd'hui que c'est pour des raisons de justice sociale évidentes, pour des raisons de droits humains évidents, mais c'est aussi pour des raisons écologiques. On ne pourra pas résoudre la crise écologique avec un tel niveau d'inégalité dans le monde. Parce que ces inégalités font qu'il existe une catégorie sociale qui est au-dessus de la société et qui vit sur un système de prédation maximum sans souci du lendemain, sans souci de l'avenir des générations futures, qui vit dans un système de prédation de rentabilité à très court terme qui écologiquement est devenu absolument insoutenable. Et là, je voudrais vous lire une phrase du rapport du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, qu'a répété l'autre jour le responsable de l'ONU sur les questions climatiques, Yves de Boer. Il l'a quasiment répété l'autre jour. Voilà ce qu'il nous dit. « Une des plus dures leçons enseignées par le changement climatique est que le modèle économique des pays riches, qui pousse la croissance et la consommation qui va avec, est écologiquement insupportable. » Ça. C'est donc dans le programme des Nations Unies pour le Développement, c'est ce que dit l'ONU aussi au niveau des négociations climatiques, même si ça ne se traduit pas après dans les faits. En tout cas, c'est quelque chose que nous devons absolument avoir en tête. Et quand on dit le modèle économique des pays riches, le modèle économique des pays riches est porté par un certain type de répartition des richesses. Voilà pourquoi cette répartition des richesses aujourd'hui doit être au centre de nos préoccupations pour des raisons sociales et pour des raisons écologiques. C'est insoutenable écologiquement. Et bon, et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qu'il faut que nous arrivions à transmettre, hein, de ne pas oublier, de ne pas séparer les questions sociales des questions environnementales. Elles ne sont pas séparables. La crise est aujourd'hui en même temps sociale et environnementale. On ne pourra pas sortir de la crise sociale, hein, en faisant fi des écosystèmes, ce n'est pas possible. Et on ne sortira pas de la crise écologique en faisant fi de la crise sociale. Parce que les inégalités sociales sont au principe aujourd'hui de l'accélération de la prédation des ressources. Hein, véritablement. Et ça, il y a une accélération depuis une trentaine d'années de la crise écologique. L'inégalité de la répartition des richesses est une des causes de cette accélération. Donc on doit vraiment, absolument, toujours tenir les deux aspects. Et autre chose, hein, j'ai oublié, excusez-moi, quelque chose avant de passer à Copenhague, c'est que... aujourd'hui aussi, il y a un réveil, hein, notamment dans les pays du Sud, mais également dans nos sociétés. Il y a un réveil, alors je dis dans les pays du Sud, des pauvres qui ont conscience, malgré tout, qu'ils sont pauvres, ils sont, on dit, mal développés ou en développement, etc. Bon, on ne discute pas les termes, mais il y a une conscience forte qu'ils ont malgré tout entretenu quelque chose qui devient extrêmement précieux pour la survie de l'humanité, c'est la biodiversité. 90% aujourd'hui des richesses de la biodiversité mondiale sont dans les pays du Sud, sont dans l'Amazonie, sont dans les forêts africaines, sont dans les forêts d'Indonésie, dans ce qu'il en reste. Aujourd'hui, si de nombreux pays ou des firmes transnationales achètent de la terre, comme vous avez pu le voir, dans les pays du Sud, il y a une véritable razzia sur les terres des pays du Sud. Le Courrier international en a fait son numéro la semaine dernière. C'est parce que dans les pays du Sud, il y a encore des terres qui ont été maintenues, qui sont fertiles. Parce qu'elles n'ont pas subi, hein, les dégradations qu'ont subi beaucoup de nos terres ici, hein, du fait de l'utilisation de l'agriculture industrielle, etc., etc., qui a fait une érosion des sols, un appauvrissement des sols, etc. Et donc, les pauvres, ce qu'on appelle les pauvres, deviennent de plus en plus conscients qu'ils ont dans leur société des richesses absolument énormes et dont va dépendre la survie même de l'humanité. Je pense surtout à la biodiversité. Regardez comment les firmes transnationales des pays riches tendent de s'accaparer cette biodiversité qu'il y a dans les pays pauvres, dans les pays du Sud. Et là, il y a des résistances qui s'organisent. Il y a cette conscience forte que peut-être nous avons le développement, la croissance, etc., etc., mais nous avons saccagé littéralement nos environnements. Alors que dans ces pays-là, il y a eu des populations entières qui, par leur mode de vie, ont contribué à conserver une partie des richesses, hein, du patrimoine naturel dont nous avons hérité, et qui aujourd'hui est absolument indispensable. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important.